Entre les sécheresses en été, les périodes de gel au printemps, l'absence de neige en hiver ou la pluie qui manque à l'appel, la météo semble avoir pris une place majeure dans nos préoccupations, dans nos quotidiens. De la simple question « comment je m'habille ce matin ?» aux grandes interrogations sur le réchauffement climatique, elle est partout et influe sur nos manières d'être. Aujourd'hui, nous parlons météo avec un passionné du sujet qui a lancé une page Facebook et Instagram dédiée au sujet en Auvergne. Bonjour Alexandre Letor.
Bonjour.
Merci d'être sur RVA, Alexandre Letor. Vous êtes le créateur de Météo Auvergne qu'on retrouve sur Facebook, sur Instagram entre autres. Un compte qui se décrit comme spécialiste des prévisions météo expertisées et pédagogiques sur le massif du Sancy, sur la chaîne des Puys et sur la plaine de Limagne. Avant de parler vraiment de cette page et de ce qu'on peut y trouver, comment vous vous êtes retrouvé à baigner dans la météo, à vous intéresser à ce sujet-là?
Alors en tout cas, aujourd'hui, j'ai la chance de faire un métier passion. Donc ça veut dire que ce que je fais aujourd'hui, je l'aime. Donc c'est plutôt confortable. Et c'est une passion de météo qui j'ai toujours eu. En fait, il n'y a pas eu de phénomène déclencheur. Je connais d'autres passionnés. Ils ont vécu, par exemple, dans ma génération, ça va être la tempête de 99, un gros orage d'été. Enfin, voilà, quelque chose de marquant. Mais moi, j'ai toujours eu cette passion depuis que je suis tout petit. Hein, quand j'étais petit, je préférais recevoir des cadeaux scientifiques, une station météo, qu'un tracteur, une voiture. Voilà. Donc, j'ai pas d'explication vraiment. C'est un peu inné, quoi.
Et qu'est-ce qui vous intéressait?
Eh ben, je pense qu'après, je me suis rendu compte que j'aime la nature en général. Et finalement, j'aime beaucoup voir comment réagit la nature selon la météo. Parce qu'en fin de compte, il y a une grande diversité de climat. Mais au sein même du climat, dès que la météo change, la nature change. Il y a des comportements différents de faune, de flore. Et je pense que c'est cette sensibilité-là qui me plaît dans la météo.
Pourquoi on attache autant d'importance à la météo? Pourquoi c'est la première chose qu'on regarde le matin, peut-être la dernière chose qu'on regarde aussi le soir avant de se coucher? Qu'est-ce qui fait qu'elle anime nos quotidiens à ce point-là?
Alors, il y a plusieurs aspects. Je pense que déjà, ça agit beaucoup sur le ressenti, parce que nous, on est des êtres humains à 37 degrés. Donc, ne serait-ce que quand il fait froid, ou en tout cas plus froid que notre corps, on va ressentir ce froid. Donc, c'est un sujet d'actualité. C'est vrai que c'est la première chose qu'on dit. Bonjour, tiens, il fait pas beau aujourd'hui, ou tiens, ça fait plaisir, il y a du beau temps.
C'est le sujet de conversation par excellence qui entame une discussion.
Voilà, pour meubler une conversation dans laquelle on ne sait pas trop quoi dire. Et puis après, il y a quand même beaucoup de métiers qui sont météo-dépendants. Hein, donc, ça peut être un agriculteur. Pour l'exemple du coin, notamment en montagne, il y a la période des foins. On est vraiment cette personne-là va être très très stressée, parce qu'il faut vraiment 3 jours très secs. Donc on a une demande qui est très forte. Il y a tout ce qui est gestion des risques. Il y a des phénomènes qui vont être dangereux pour les biens, pour les personnes. Donc je pense que c'est vraiment ancré dans notre quotidien. La météo est censée aussi changer tous les jours ou toutes les semaines. Donc dans tous les cas, c'est inévitable. Ne serait-ce que rien que pour savoir comment on s'habille. On est forcément dépendant de cette météo.
Alors Alexandre Letor, concentre-nous sur le domaine et sur la zone sur laquelle vous êtes pour le coup expert avec Météo Auvergne, c'est-à-dire cette zone qui regroupe la région Auvergne et plus précisément le massif des Puys, du Sancy, la plaine de Limagne. Est-ce qu'il y a un climat particulier à ces zones-là?
Oui, alors c'est pas par hasard que je fais des prévisions pour ce secteur-là parce que en fait, on a des climats. Ça qui est intéressant, c'est que entre le Sancy et la Limagne, il y a vraiment un monde. Le Sancy, quand je dis le Sancy, c'est vraiment le Mont d'Or, super vieille, Chastré. C'est le premier massif de l'ouest de la France. Et comme le temps perturbé vient de l'ouest, on est le premier obstacle.
C'est-à-dire tout ce qui vient de l'océan.
Oui, tout ce qui vient de l'océan, en fait, quand cet air-là arrive sur le relief, il est soulevé, ce qui accentue la condensation et donc les précipitations. Et pour bien se rendre compte, dans ce secteur-là, il va tomber entre 1800 et 2200 mm d'eau, donc de neige et de pluie par an. Donc 1 mm, c'est 1 litre par mètre carré. Et quand on est à Clermont-Ferrand ou à Issoire, on n'est plus qu'à 500 ou 600 mm. Donc on divise par au moins 4 la quantité de précipitation. Donc ça veut dire que le climat est complètement différent. Et après, les températures sont évidemment différentes du fait de l'altitude, mais aussi parce qu'en étant, nous, de l'autre côté, on a un réchauffement qui est créé par cette air qui redescend aussi. Tout ça, c'est le terme scientifique, ce qu'on appelle l'effet de faune. Mais tout ça pour dire qu'il y a vraiment un monde. Quand on voit après la météo généraliste, où on dit « demain en Auvergne, il pleut », en fait, ça ne veut rien dire du tout, parce qu'on peut avoir des situations où il peut déjà, ce ne sera pas de la pluie, ça va être de la neige dans le Sancy, et puis à Clermont-Ferrand, pendant ce temps-là, il ne va pas pleuvoir, mais il va faire beau. C'est-à-dire que vous avez des journées où il peut pleuvoir 50, 60, 80 mm en 24 heures au Mont d'Or, et à Clermont-Ferrand, vous avez 0 mm. Donc, c'est pour dire qu'il y a une telle barrière, un tel gradient, une telle diversité de climat entre ces coins-là, que déjà, on ne s'ennuie pas. Et c'est ça aussi qui est passionnant le boulot que je fais, c'est que si j'avais fait météo Beauce, c'est au sud de Paris, des grandes plaines agricoles où il se passe pas grand chose. eh ben, je pense pas que ça aurait eu le même intérêt que les gens auraient été aussi intéressés par pour comprendre ce qui est en train de se passer ici.
Est-ce que cette question du relief et du coup de cette barrière naturelle, on peut peut-être la définir comme ça, entre l'Ouest et après tout le reste de l'Auvergne, a un impact à la fois sur la démographie, mais aussi sur la faune, la flore, sur l'évolution tout simplement de la nature?
Ah oui, bon, on le voit très bien. Il suffit déjà de regarder par exemple le versant ouest du Sancy, le versant est. À altitude égale, vous n'avez pas les mêmes espèces végétales, notamment. On voit très bien qu'il y a une grande diversité. Et par exemple, quand on autant côté Sancy, voilà, on a le côté vraiment montagne et très sapinière, hein, ce côté-là. Mais quand vous descendez vers Issoire, tout ça, hein, c'est pas pour rien qu'on appelle ça la petite Toscane. Hein, on dit ça un petit peu pour ce coin-là, parce qu'on a un climat d'abri protégé par la montagne et ça limite les accents méditerranéens, d'autant plus maintenant avec le réchauffement où ça tend à monter depuis le sud. Donc oui, ça a une énorme influence sur la faune, la flore, donc sur l'agriculture aussi. Et c'est vrai qu'on se rend bien compte là aussi qu'on est complètement dépendant de cette météo et donc du climat.
Alors dites-nous en plus un petit peu sur votre métier, sur cette passion de la météorologie. D'où vous tirez vos infos? Comment on est sûr que c'est fiable, que les prévisions que vous annoncez à 1, 2, 7 jours vont vraiment se dérouler?
Alors là, il faut revenir un petit peu à la compréhension de la prévision météo. Parce que souvent, quand je pose la question, mais est-ce que vous savez comment on fait les prévisions météo? Eh bien, il y a des réponses souvent un peu vagues. On me dit, ah, mais vous avez des images satellites, vous regardez des cartes, choses comme ça. Ou parfois, on entend plus folklorique, hein, c'est la lune, c'est un peu des choses un peu approximatives. Alors, je vais essayer de simplifier un petit peu pour comprendre comment ça fonctionne. Pour faire de la prévision, il nous faut avant tout de l'observation. Donc, ça veut dire que sur Terre, vous avez tout un réseau d'observations. Donc, ça peut être les images satellites, les images radar, les stations météo, les ballons sondes qu'on envoie dans l'atmosphère, les avions aussi, tout ça nous apporte de la mesure. Et donc avec ça, on a une cartographie de la Terre, de l'atmosphère à un moment donné. Il faut bien comprendre que dès le départ, on ne connaît pas chaque centimètre cube d'air. Si on connaissait les propriétés de chaque centimètre cube d'air, ou en tout cas chaque mètre cube d'air à différents niveaux, on aurait des prévisions qui seraient beaucoup plus fiables, fiables tout le temps, hein, mais ce n'est pas le cas. Donc, toutes ces données-là, en fait, on les copie. Quand je dis « on », hein, ce sont les agences météo nationales de chaque pays. Hein. C'est pas nous, nous n'avons pas nos propres modèles. Mais en tout cas, tout ça, c'est compilé dans un super calculateur. La puissance de calcul est énorme, hein, celui de Météo France. Il faut bien comprendre que c'est 21 millions de milliards d'opérations par seconde. Et ça tourne pendant quelques heures. Ça, en fait, ce super calculateur, avec des équations donc de thermodynamique, dynamique des fluides, hein, c'est très complexe, va dire « bah voilà, c'était comme ça à telle heure, voilà comment ça serait ». Dans une heure, deux heures, un jour, deux jours, trois jours, etc. Donc, il faut bien comprendre que plus on avance dans le temps, s'il y a un petit écart au début, bah forcément, tous les scénarios vont avoir tendance à se disperser. Et donc, aujourd'hui, la fiabilité, en moyenne, c'est bon ou très bon jusqu'à 3 à 5 jours environ. Mais au-delà de 5-7 jours, en général, il y a encore un fossé. Ça veut dire que la fiabilité va chuter fortement.
Est-ce que vous pouvez quand même l'anticiper au vu de votre connaissance du territoire, du relief?
Oui, et en tout cas au vu du comportement de ces modélisations justement. Par exemple, quand c'est anticyclonique, c'est-à-dire que c'est un temps calme, on a un gros anticyclone qui est là, eh ben, on peut avoir une fiabilité des fois qui va à 10-15 jours. Par contre, comme il y a des situations des fois où en fin de compte, il y a tellement de variabilité possible, en fait on est très proche du froid et très proche du chaud, que même à 2 jours, ben, il y a beaucoup d'éléments à caler. On ne sait pas combien il va pleuvoir, si ça va être de la pluie ou de la neige, et on ne connaît pas la suite, quoi. Donc, ça dépend vraiment de chaque situation. Et d'autant plus ici, avec la présence du relief, hein, ça fait que le relief aura une énorme influence sur la météo, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien penser aussi qu'il y a les modélisations dans l'ensemble et après, il y a l'impact local.
Alexandre Letorge, j'étais obligé de vous faire réagir à quelques actualités parce que la météo, comme on l'a dit, nous anime et au quotidien. Et s'il y a bien quelque chose qui nous anime en ce moment, c'est le manque de pluie. Météo France vient de sortir un chiffre, 32 jours consécutifs sans de pluie en France, c'est un record. Comment on explique cette information et surtout comment on la considère aussi, cette absence de précipitations?
Alors l'explication, en fait, c'est un phénomène qui est récurrent surtout depuis à peu près 2015. Hein. C'est vraiment là où nous, on a vu en tout cas un basculement. Pour faire simple, hein, c'est qu'on a des hautes pressions, des anticyclones qui tendent à dominer, à s'installer durablement. Alors c'est quoi l'anticyclone, hein? Pour faire simple, en gros, c'est de l'air qui redescend. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir de l'air qui monte, qui fabrique des nuages, cet air redescend. Et donc, du fait de cette descente-là, l'air est comprimé, ça le réchauffe, ça l'assèche. Donc, en gros, bah, il ne pleut pas, il fait beau en général, ou on a des nuages bas, mais c'est, en fait, il n'y a pas de précipitation. Et ça, c'est interpellant parce qu'on l'a de plus en plus, et le coupable, hein, c'est, ça fait plus trop de secrets maintenant, hein, c'est que, enfin, avant le réchauffement, les anticyclones étaient normalement plus au sud. Quand on dit l'anticyclone des Açores, hein, par exemple, c'est parce que entre les Açores, le Sahara, tout ça, on a une zone d'anticyclone qui apparaissent là d'un point de vue, enfin, c'est normal, hein, c'est la circulation normale. Et comme il fait de plus en plus chaud, bah, ces anticyclones tendent à remonter vers le nord.
Ça veut pas dire forcément qu'il y a plus d'anticyclones.
Non, pas forcément. C'est qu'on a une remontée en latitude de ces anticyclones. Et donc, au lieu d'être davantage vers le sud, bah, ils sont davantage sur nous.
Oui, mais ça ne veut pas dire forcément que dans le sud, pour le coup, il va plus pleuvoir.
Ah non, non, justement. Ouais, ouais, il n'y a pas non plus. Non, non, au contraire, c'est que la zone comme ça, un peu subtropicale, tend effectivement à remonter vers le nord. Et ça, on l'a de plus en plus et en toute saison. Ça veut dire que là, ce qu'on observe là, bah, c'est encore une fois ce même anticyclone d'origine subtropicale qui s'installe là, qui est verrouillé et qui empêche le flux d'ouest de passer comme ça.
C'est ce qui explique aussi les interrogations qu'on peut avoir autour de la neige en montagne.
Oui.
On a beaucoup moins depuis plusieurs semaines. Malgré tout, la neige reste, mais peut-être même en bas de montagne et pas forcément en haut.
Ce qui est paradoxal, c'est qu'effectivement, si on a un peu de neige et qu'après, il y a l'anticyclone derrière, en hiver, même s'il fait doux, en fait, la neige aura tendance à moins fondre que s'il fait humide. Ça veut dire que comme les nuits sont claires, la neige regèle. Donc la neige est conservée. En journée, l'air est suffisamment sec, la neige fond moins, hein, par un processus un petit peu plus complexe à comprendre. Mais du coup, effectivement, s'il y a un coup de neige et qu'après il y a l'anticyclone, surtout si on n'est pas trop avancé dans la saison, la neige va avoir tendance à rester. Pour autant, on n'a plus de nouvelles neiges. Mais il suffit d'avoir un petit redoux sur ça humide et c'est fini, il n'y a plus de neige, quoi. Voilà. Donc c'est ça qui sauve encore les stations de ski, notamment dans le Sancy. Hein. Ça fait déjà 2-3 années que c'est ça. Ça veut dire qu'il y a un coup de neige, après il fait sec, la neige peut rester plus ou moins. Et c'est comme ça qu'on s'en sort.
Mais du jour au lendemain, ça peut changer, quoi.
Ah bah c'est ça, c'est qu'il suffit qu'il y ait un redoux humide. En fait, nous, comme on est très près de l'océan, on peut avoir des redoux où même s'il y a 50 cm de neige, on va perdre 10-20 cm de neige par jour. Donc s'il y a quelques jours de redoux humide et venté, c'est terminé, quoi.
Alors là, on va glisser doucement vers les mois de printemps puis d'été, des périodes que désormais les agriculteurs, on en parlait tout à l'heure, redoutent, en cause des épisodes de forte sécheresse, notamment en été, ça c'est plus un secret, on le sait, mais aussi des épisodes de gel sur les vignes, sur les cultures. On voit qu'il y a des changements météorologiques, concrètement sans être forcément dans le catastrophisme absolu. Est-ce que de tout ça, il faut s'en inquiéter aujourd'hui?
Alors oui, il faut s'en inquiéter. Alors effectivement, il ne faut pas être catastrophiste. Moi, après, je vais être très honnête avec vous. Ce qu'on est en train d'observer et ce vers quoi on tend, ça ne promet pas un monde des plus heureux, quoi. Donc nous, notre rôle...
C'est ce que disait le rapport du GIEC qui
voilà.
Est sorti il y a encore quelques mois.
Ben oui, mais en fait, le problème, c'est que ça fait des décennies que la science alerte et qu'on n'écoute pas, quoi. Donc ça, c'est un gros souci. Nous, notre rôle, parce qu'il faut trouver le bon curseur, en fait, entre expliquer sans faire peur. C'est ça qui est compliqué, en fait. Donc voilà, nous on essaye en fait d'expliquer, de montrer ce qui est en train de se passer. C'est que comme ça que les consciences pourraient un petit peu évoluer, parce que moi je suis convaincu qu'aujourd'hui, une grande partie des gens, j'ai pas de chiffres, hein, ne sont pas conscients de ce qui est en train de se passer. Ils pensent que oui, il y a un réchauffement, tout ça, mais ils ne sont pas conscients à la fois de ce qu'on mesure et de ce vers quoi on tend. Parce que bon, on parle souvent, ah, il n'y aura plus de ski, machin, tout ça. Ça, j'ai envie de dire, c'est la partie un petit peu gentille, quoi. C'est pas trop trop grave. Mais le principal souci, ça va être le manque d'eau, en fait. Parce que même si sur l'année, il tombe à peu près la même quantité d'eau, vu qu'on vit dans un monde plus chaud, bah forcément, l'eau s'évapore plus vite, hein, l'évapotranspiration des plantes, des sols, etc. Donc, à un moment donné, on manque d'eau. Donc,
là, le meilleur exemple, c'est la situation des nappes phréatiques. Hein.
Oui, c'est ça. Alors après, il faut aussi penser qu'il y a différents types de sécheresse. Les nappes, hein, c'est vraiment une sécheresse du sous-sol, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Après, on a aussi la sécheresse agricole, quand c'est vraiment que les sols, ou la sécheresse météo, dans le sens il ne pleut pas depuis une période prolongée. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi à ces types de sécheresse. Souvent j'entends « Ah, mais il a assez plu, tout ça ». Non, ce n'est pas parce qu'il a beaucoup plu pendant l'hiver qu'il n'y aura pas de sécheresse. Parce que, imaginons, il a beaucoup plu pendant l'hiver. Bah, les sols au printemps, dès que les plantes commencent à sortir, à pomper de l'eau, dès qu'il commence à faire beau, forcément le sol il sèche. Donc s'il ne pleut pas, le sol devient sec très vite, quoi. Donc c'est pour ça que ce n'est pas aussi simple que ça. Pour comprendre ces problèmes de sécheresse.
Pourquoi expliquer sans faire peur?
Je ne suis pas le premier à le dire, hein, mais je vois notamment Christophe Cassou, enfin, des gens du GIEC, etc., disent bien que voilà, si on fait peur, ça peut braquer les gens, en fait. On peut dire, oulala, ah oui, effectivement, ça ne va pas être beau, donc de toute façon, je serai mort, donc je n'ai pas envie de faire d'effort. Ou ça peut faire peur dans le sens tétanisé, quoi. Dit, ah oui, je n'avais pas compris que ça allait être ça, qu'est-ce qu'on peut faire, je ne sais pas quoi faire, enfin voilà. Donc, je me dis que de toute façon, c'est compliqué. Et puis, comme il y a malgré tout des gens aussi qui sont climato-sceptiques, hein, qui ne croient pas à tout ça, eh ben, on va être accusé de catastrophiste. Vous voyez, hein, ils annoncent encore la fin du monde, tout ça. Donc, voilà, il faut trouver un curseur. Moi, sincèrement, je ne l'ai pas réussi à le trouver. mais c'est pas évident, il faut être pédagogique. Alors je pense que la meilleure façon de le faire, c'est un petit peu un idéal, mais c'est aussi d'être, de sensibiliser dans le sens, rendre les gens sensibles à la nature qui nous entoure. Tout simplement, être capable d'admirer un coucher de soleil, être capable d'admirer de la pluie, parce que bah, la pluie, c'est aussi bien, hein, quand il y a un sol qui est sec, on voit la nature qui s'éveille au bout de quelques jours, c'est aussi
Et c'est ce
important.
que vous faites aussi sur la page Météo Auvergne, Facebook et Instagram,
Oui.
c'est-à-dire que vous mettez des clichés de paysages, de reliefs, de
Oui.
montagnes, de Limagne, pour montrer finalement bah, juste que la nature est belle, quoi.
Oui, c'est
C'est
ça.
déjà la première sensibilisation.
Je pense que oui, c'est ça qui manque à beaucoup de gens, quoi. C'est que beaucoup sont déconnectés de ce qui se passe et ne se rendent pas compte aussi, même des fois des locaux, hein, se rendent pas compte de la chance qu'on a d'avoir ici. Donc autant en profiter.
C'est sûr qu'on a du potentiel. On va parler quand même, pour conclure un peu cet entretien, d'un dernier sujet et qui peut être là aussi une visée, une portée pédagogique. C'est une exposition qui a eu lieu à Muralcaire pendant tout le mois de février, à laquelle vous étiez associé. Une exposition qui justement montre des paysages, des nuages d'Auvergne. Dites-nous en plus sur ce principe, sur cette exposition et sur un petit peu bah, la visée qu'elle recherchait.
Ouais, alors cette exposition, elle a été mise en place par Patrice Villemejeanne, en fait, qui a sa petite structure, les Terres du Milieu. Alors, on échange beaucoup ensemble. Lui est passionné de photos, notamment, et donc son exposition était sur les mers de nuages. Alors, les mers de nuages, en gros, c'est quand vous êtes sur un sommet et que vous avez des nuages qui sont suffisamment bas pour les observer. Et lui est friand de ces mers de nuages. Donc, nous, dans nos prévisions, on essaye de prévoir aussi ces mers de nuages-là. Et on peut faire le lien avec ce qu'on a dit avant, parce que pour qu'il y ait une mer de nuages, faut qu'il y ait un anticyclone. Et donc, justement, on en a quand même très fréquemment, parce que quand l'hiver vous avez de l'anticyclone comme ça, en gros les nuages bas sont plaqués en bas. Donc on a ces beaux paysages avec un ciel limpide au-dessus. Mais par contre, ces nuages bas, alors quand on est à Clermont-Ferrand, en général on est en dessous. Donc on n'imagine pas qu'au-dessus il y a des conditions assez géniales. Et donc ouais, je vous invite à aller voir cette exposition, que c'est vraiment des belles photos. Et c'est encore une preuve que ça vaut le coup de se balader pour voir un peu ce qui se passe.
Alors une exposition qui se termine le mardi 28 février, mais j'imagine qu'il y en aura d'autres qui vont suivre derrière
Oui, il
sur
a
d'autres
déjà fait
thématiques.
plusieurs à plusieurs endroits, donc je pense qu'il va aussi faire l'exposition sur d'autres secteurs. Ouais.
On redonne les informations. Vous pouvez retrouver Météo Auvergne sur les pages Facebook et Instagram. Et là, vous allez avoir toute une batterie de clichés, de graphiques, d'explications pour mieux comprendre la météo dans le massif du Sancy, dans la chaîne des Puys, sur la plaine de Limagne, bref, un peu partout en Auvergne. Merci beaucoup, Alexandre Lauter, d'avoir été avec nous.
Merci à vous.